Cet épisode aborde le sujet de la consommation d'alcool. Si ce sujet vous touche, assurez-vous de l'écouter dans de bonnes conditions. Et si vous vous trouvez dans une situation d'addiction et que vous vous posez des questions, n'hésitez surtout pas à solliciter de l'aide.
Vous n'avez rien contre les omelettes ?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Leistari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients vont venir.
J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzels.
Oh mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
Why am cooking so good?
Ah là, c'est bon.
Dans sa vulgaire banalité, l'alcool peut être bien autre chose qu'une simple famille de liquides. Les boissons alcoolisées, souvent, marquent des rendez-vous. La bière pression de la fin de journée, le pastis avec la pétanque, le whisky coca en concert de rap quand on était plus jeune, le vin en grignotant des planches charcuterie fromage, les bulles quand on a quelque chose à célébrer, le spritz quand les beaux jours arrivent, le coup de blanc avec les fruits de mer, le rosé quand on a encore du sel dans les cheveux. Boire un verre fait partie de ces gestes ritualisés dont la charge émotionnelle est décuplée lorsqu'ils sont partagés avec d'autres, lorsqu'ils appartiennent à des endroits précis ou encore lorsqu'ils arrivent à des moments fétiches. Mais que se passe-t-il lorsque tout ça saute dans un moment aussi exceptionnel que le confinement ? Si l'alcool a du sens selon les endroits et les gens avec qui il est consommé, que se passe-t-il quand on enlève précisément les endroits et les gens ? Lorsque le quotidien, tout à coup, appartient à une même unité de lieu, notre logement, et semble même appartenir à une même unité de temps, autrement dit, une longue succession de jours qui se ressemblent. Dans quelques années ou quelques mois, il y aura plusieurs façons de se souvenir de la crise sanitaire du Covid-19. À travers l'angle sanitaire de la pandémie, bien sûr, celui de la gestion politique française, assurément, selon la grille de lecture environnementale ou celle de l'hôpital public en ruine depuis des années, sans aucun doute. Mais il y aura aussi, plus trivialement, ce que le confinement a modifié dans nos quotidiens. Ces petits changements qui permettent l'air de rien de faire la lumière sur des choses qui ont toujours été là. C'est comme déplacer le canapé dans son salon ou changer ses rideaux. Ça permet de remarquer le rapiécement d'une latte à cet endroit du parquet ou de réaliser comme la lumière est vive le matin. Eh bien, c'est sûrement la même chose avec l'alcool. Ne pas pouvoir trinquer au resto, ne pas retrouver ses amis en terrasse, tout ça, ça a mis en exergue la place de l'alcool dans nos vies. Sa fonction sociale, ce qu'il est pour son goût, oui, mais aussi ce qu'il connote et ce qu'il représente. Alors, quel sens donner ou redonner à l'alcool ? Comment favoriser une conduite joyeuse et saine face à l'apéro ? Comment boire en toute intelligence, en se faisant plaisir et en soutenant un cercle vertueux de travailleurs et travailleuses de la Terre ? Cet épisode a été conçu pour vous offrir quelques clés. La situation actuelle n'est pas simple, mais on va essayer de ne pas voir le verre à moitié vide. J'ai commencé par observer autour de moi, à regarder ce que faisaient mes proches, les amis, la famille, et c'est simple. On a toutes et tous eu besoin de continuer à se voir, souvent pour trinquer à distance et se parler des situations que génère le Covid-19.
J'applaudis, mais je sais pas, avant que croiser le regard de mon voisin qui applaudit, genre « Salut, ça va ? On applaudit tous les deux ?» Elle m'a fait un petit smile comme ça.
Par exemple, malgré le confinement et l'impossibilité de se réunir pour lui planter des bougies sur un gâteau, on s'est quand même retrouvés virtuellement pour trinquer à distance et fêter l'anniversaire de Jeff.
Jeff, ça fait quoi de fêter son anniversaire en confinement ?
Mais j'ai pas fait grand chose, bah, j'ai travaillé un tout petit peu, mais j'ai été hyper interrompu par des appels, normal. Mais je pense que le fait que ce soit ton anniversaire en confinement, bah, les gens ont plus de temps.
Et d'ailleurs, même si ça n'était pas en vrai dans un bar, ça nous a pas empêché de finir tard. Lors d'un autre apéro à distance, on s'est aussi demandé avec Steven, Arthur et Alex ce que voulait dire se mettre à boire seul ou pas. Seul devant un écran avec des potes, est-ce que c'est seul ou pas ?
Ouais, je veux dire, tu le fais avec des gens. Et même si t'es physiquement tout seul, ça reste social. Alors
c'est vrai que de ce point de vue, le confinement est une expérience sociale qui chahute beaucoup nos habitudes. En cette période où les réjouissances sont rares, et parce qu'il y a moins de distinctions entre les journées et les soirées, il peut être hyper tentant de s'octroyer le plaisir d'un verre. Mais lorsqu'on est en proie à la solitude ou lorsqu'on souffre d'angoisse, le fait d'être enfermé peut aussi générer une réunion de facteurs amenant des comportements à risque. Bien sûr, tout ça varie selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. En couple ou en coloc, par exemple, ce n'est pas pareil qu'être seul. Delphine et Flavien vivent ensemble et me racontent que le confinement a changé leur liste de courses. Avant, il n'y avait pas trop de raisons qu'ils achètent régulièrement de l'alcool, puisque c'est quelque chose qu'ils réservaient surtout aux sorties.
Alors, je pense que oui, le confinement a changé notre consommation d'alcool, dans le sens où jusqu'ici, on n'avait quasiment jamais de stock d'alcool, à part peut-être une caisse de vin que mon père nous avait filée.
Je pense que plus, c'est surtout qu'on buvait très très rarement de l'alcool à la maison avant, et que là, on en boit à minimum 1-2 fois par semaine sur des visio-apéros.
Sur la question de l'achat et de la présence d'alcool à la maison, voici ce que Célia Créma, addictologue reliée à l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, conseille.
Pour quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de consommer de l'alcool à son domicile, il ne faut pas que le confinement modifie ses habitudes de consommation. Par exemple, une personne qui aurait pour habitude de consommer 2 bières dans un bar avec ses amis le vendredi soir peut tout à fait conserver cette pratique de consommation. Concernant par contre la notion de bons achats, sur le plan éthique, il me sera difficile de faire des recommandations, mais il apparaît censé de privilégier l'achat de liquides moyennement alcoolisés, plutôt de la bière ou du vin que du whisky ou du pastis, mais surtout de limiter la quantité achetée ainsi que la fréquence d'achat. Si vous aviez pour habitude, avant le confinement, de faire vos courses une fois par semaine, conservez la même fréquence d'approvisionnement.
Certaines personnes parlent également du pouvoir de rupture dans le temps apporté par l'alcool, qui convoque un univers agréable de détente. Chez beaucoup de personnes, le fait de boire une bière permet de souligner la fin d'une journée de travail. Le bruit d'une bouteille de vin qu'on ouvre plonge en l'ambiance d'un bon repas. Pour profiter de cet effet d'événementialisation des choses, Perrine, son copain et leur coloc se sont astreints à ne boire que le week-end.
On a fait ce choix pour garder... on va dire la dissociation week-end-semaine, garder un peu un rythme, sachant que déjà le fait d'être tout le temps à l'appart, de travailler à l'appartement, de ne pas pouvoir sortir, ça crée un peu un flou entre les journées, la semaine, le week-end. Donc voilà, l'absence d'alcool la semaine, ça permettait aussi de marquer un temps de loisir et de travail un peu distinct. On s'est un peu mis à faire des cocktails, on s'est fait des spritz par exemple... il n'y a pas longtemps. On boit pas mal de vin, mais du coup, on va essayer de varier et puis de chercher des bouteilles de qualité. Il y a encore cette logique un peu de transfert de budget où comme on peut plus payer des bons restos et se faire des soirées dans des bars, on a moins de mal à mettre 8-10 euros dans nos bouteilles.
Pour Célia Créma, il est effectivement essentiel de réserver des soirs sans boire dans la semaine. Fixer des règles peut aider à respecter ce comportement. Par exemple, en décrétant qu'on ne boit jamais avant le mercredi ou le jeudi.
Il est essentiel de ne pas boire tous les jours de la semaine et donc de conserver des jours sans alcool. On peut tout à fait dédier certaines soirées à d'autres activités ludiques et divertissantes, comme des jeux de société, la lecture, et se donner comme règle de ne pas consommer d'alcool ces soirs-là.
Louis m'a raconté qu'il a été plus loin encore. Il a profité du confinement pour s'astreindre à ne pas boire pendant une semaine.
Après ces quelques jours sobres, on a tous remarqué une grosse différence sur notre physique. On s'organisait mieux, on perdait moins de temps la journée. Ça nous a clairement fait du bien, même si le moment de convivialité qu'on associait beaucoup à quelques verres d'alcool ont fini par nous manquer.
J'ai demandé à Célia Créma ce qu'elle pensait de ce genre de pause.
Alors la période actuelle, ça n'est ni un bon moment, ni un mauvais moment pour stopper ou réduire sa consommation d'alcool. En fait, tout dépend dans l'état d'esprit dans lequel vous vivez votre confinement, par exemple. Si... actuellement, pour vous, il s'agit d'une période de détente parce que vous avez moins de stress au travail et que vous passez davantage de moments en famille, le moment peut être tout à fait adapté pour stopper pendant un temps sa consommation d'alcool. Si à l'inverse, cette situation génère chez vous du stress ou de l'angoisse, l'arrêt total de la consommation d'alcool peut être plus compliqué à gérer. Donc c'est vraiment propre à chacun et en fonction de ses motivations et de sa volonté de voir si on se sent capable de tenter cette expérience actuellement.
Et puisque dans tous les cas, il y a les apéros virtuels proposés ci et là et qu'ils sont importants pour garder le contact avec ses proches, qu'on ne peut pas voir autrement que par écran interposé, la tentation de rendre le moment plus festif est grande. Georges, par exemple, vit seul et a quelques techniques personnelles pour contrôler sa consommation.
Alors, le seul truc que j'ai trouvé pour réussir à limiter ou contrôler ma consommation d'alcool en ce moment, c'est un truc qui est venu après plusieurs semaines, c'est soit de pas faire de conférence call du tout, soit d'y couper court et de faire semblant que je dois faire autre chose ou que je dois partir. Ah oui, et aussi dîner super tôt, parce qu'une fois que j'ai mangé, j'ai plus envie de parler à personne, du coup je risque pas de tomber sur un call qui va finir par être un piège.
Voilà ce que Célia Créma en pense.
Il n'y a rien de négatif dans le fait de vouloir créer des moments de sociabilité avec ses proches, d'autant plus dans cette période d'isolement. Et le fameux rituel de l'apéro existait avant le confinement, donc il est normal que l'on cherche à recréer cette habitude dans le contexte actuel. Il n'existe pas de technique toute faite pour limiter sa consommation d'alcool. Chacun peut développer, s'il le souhaite, des stratégies qui vont être individuelles et qui vont lui permettre de détourner son envie de consommation d'alcool. Mais pour ça, il faut avoir identifié au préalable les contextes sociaux dans lesquels on consomme. Est-ce qu'on consomme plutôt seul, plutôt en groupe, plutôt chez soi, plutôt à l'extérieur? Mais aussi les contextes émotionnels dans lesquels on va consommer. Est-ce que c'est plutôt dans un état de stress pour faire la fête? Et en fonction de nos observations et des constats qui vont être faits, on pourra trouver des dérivatifs et donc des stratégies qui vont nous permettre de détourner notre envie de consommation d'alcool. Dans le cas où vous consommeriez de l'alcool à un apéro ou à un repas, qu'il soit virtuel ou non d'ailleurs, une bonne astuce consiste à placer systématiquement un verre d'eau ou de boisson sans alcool à côté du verre d'alcool. De cette manière, quand vous allez avoir soif, vous aurez moins le réflexe de boire de l'alcool pour vous désaltérer. Et concernant la consommation de planches à grignoter, le fait de manger en même temps que l'on consomme de l'alcool, c'est plutôt une bonne chose car ça tend un petit peu à ralentir l'absorption de l'alcool. Et en dehors de ça, ça évite effectivement de centrer l'événement festif uniquement sur la consommation d'alcool.
Bon, après, même si on aime tous voir les visages de nos proches sur nos écrans, faut avouer que c'est quand même pas la même chose qu'en vrai. De toute façon, c'est aussi fatigant de rester longuement devant un écran. Lucie, par exemple, raconte que le confinement n'a pas augmenté sa consommation d'alcool, bien au contraire.
Donc comme je te disais, j'ai plutôt moins bu pendant le confinement jusqu'à présent. En gros, j'ai bu quasi exclusivement pendant les apéros visio. Et pendant ces apéros visio, j'avais tendance à être vraiment plus fatiguée que d'habitude, moins d'excitation que quand on est physiquement avec les gens et que les interactions sont différentes. Et je pense que ça me fatigue davantage. Du coup, j'ai bu en moyenne pour ces apéros jusqu'à présent 2 petites bouteilles de bière par apéro, ce qui me semble quand même vraiment moins que d'habitude.
Dans tous les cas de figure qu'on vient de voir, il est question de boire avec des gens. Soit parce qu'on est plusieurs sous un même toit, soit parce qu'on rejoint des apéros virtuels. On n'est donc jamais vraiment seul avec son verre. Mais justement, lorsqu'on vit seul et qu'un soir on ne parle pas avec des amis à distance, que veut dire boire un verre dans ce contexte? Qu'est-ce que l'alcool lorsqu'il n'est plus social? Boire seul, c'est un autre rythme. Ça peut être perturbant de se retrouver avec une bouteille, sans un autre verre à servir que le sien, sans discussion pour faire des pauses.
Sur le plan purement métabolique, il n'y a pas de différence entre le fait de boire seul ou accompagné d'amis. Si vous buvez 2 verres de vin, ils auront le même effet sur votre corps que vous soyez seul ou en groupe. Le risque potentiel d'une surconsommation si l'on est seul serait encore une fois plutôt en lien avec l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez lorsque vous consommez. Car encore une fois, il ne faut pas que la consommation d'alcool intervienne en réponse à un état de stress ou de tristesse, car on va donner l'information au cerveau que l'alcool est un produit qui permet d'améliorer cet état. Et c'est dans cette information et dans ce mécanisme-là que réside un potentiel risque d'accoutumance.
Pour éviter le risque d'accoutumance dont parle Célia Créma, on peut aussi essayer de boire des choses qui nous font réellement plaisir pour leur goût. On cherche alors la dégustation plutôt que l'enivrement rapide. Par exemple, pour remplacer les petits demi de blonde qu'on ne peut plus boire au comptoir, on peut modifier ses courses, comme Hélène qui m'a raconté en note vocale l'apéro qu'elle s'est accordé vendredi soir en solo.
J'ai décidé de m'ouvrir une petite bière. C'est une bière allemande qui s'appelle Neumarkter Lamsbrau, que j'ai trouvé à la Biocoop du coin. Alors moi j'avoue, je l'ai prise parce que c'était la moins chère et que j'ai une règle, c'est de boire que des bières artisanales ou bio parce que j'ai plus 20 ans. Mais voilà, j'avais pas envie non plus de mettre 4€ dans une bière de 25. Donc j'ai pris cette petite bière allemande et franchement elle est pas mal, elle est assez légère, assez fruitée, assez, j'aime même plutôt florale.
Alors oui, s'ouvrir une bonne bouteille de vin pour la savourer même quand on est seul et la boire en plusieurs fois, boire une bière seule, ça devrait être possible en respectant quelques règles. Cette réflexion est en tout cas valable chez les individus ne souffrant pas ou n'ayant pas souffert de problèmes avec l'alcool. Parce que le plus important, que vous soyez seul, en couple, à plusieurs dans une coloc ou à plusieurs en visio, c'est de garder en tête que l'alcool ne doit pas être autre chose qu'un breuvage dont on apprécie le goût et le contexte dans lequel on le savoure. À partir du moment où l'alcool devient autre chose, à partir du moment où il n'est plus quelque chose qui s'ajoute à nos existences, mais devient une condition sine qua non pour passer la journée sans angoisse et anxiété, là, il n'est plus consommé pour ce qu'il devrait être. Là, l'alcool porte en lui une fonction qui ne devrait pas être la sienne. Alors buvons l'alcool, oui, mais en ne perdant pas de vue qu'il doit être source de plaisir. Réfléchir à ce que l'on boit, par exemple, prendre le temps de comprendre exactement de quoi il s'agit, ça permet d'éviter d'avoir une vision utilitariste de l'alcool et ça resitue l'alcool dans le registre de la dégustation. D'ailleurs, depuis le début du confinement, avec Manu, on a essayé de s'organiser des dîners le week-end pour se lancer des défis culinaires et accompagner ça de bonnes bouteilles. Ça nous remplaçait un peu nos habituels restos. Surtout que pendant le confinement, on a fêté nos 11 ans ensemble.
11 ans ensemble, 11 ans que je te supporte, ou l'inverse, on ne saura pas. Et du coup, est-ce que tu te souviens de ce qu'on a bu et mangé ce soir-là?
On avait prévu de faire une recette vénitienne qui est issue du livre sur la cuisine vénitienne de La Roazavale, hein, qu'on a à la maison, et qui est une recette de cochon en cocotte avec du lait, qui est cuit dans le lait. Donc c'est maillalé al latte et
du lait infusé d'ailleurs peut-être au romarin et...
avec du romarin, je me souviens plus exactement, il y a pas beaucoup d'ingrédients, donc c'est de la cuisine assez simple en fait, mais comme beaucoup de recettes en cocotte, le temps bonifie les ingrédients et donc du coup c'est très délicieux. Et en fait le vin qu'on a bu ce soir-là, c'était un Valpolicella 2018, si je dis pas de bêtises, qui nous a été recommandé.
Boire une bonne bière, savourer une liqueur, accompagner un repas d'une bonne bouteille de vin, tout ça doit rester du plaisir. Et quitte à le faire, autant ne pas enrichir les grands groupes industriels qui n'en ont pas besoin et soutenir nos cavistes indépendants, les petits vignerons et vigneronnes. Pour discuter de vin en temps de confinement, j'ai appelé Clément, qui me conseille toujours si bien chez Cambuse, caviste et cave à manger que j'adore, qu'il tient avec Marie à Paris.
Ce qui est drôle, c'est que les gens nous remercient beaucoup. Ils nous remercient beaucoup, alors que en général, c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui remercions les clients. Et là, ils nous remercient d'être ouverts, d'être là. Donc, c'est marrant, ça change un peu les rapports. Voilà, je pense que les gens, ils sont contents de retrouver un petit... un truc un peu du quotidien, quelque chose qu'ils connaissent, une tête qu'ils connaissent, voilà, parce que bon, tu vas chez Carrefour, t'as pas forcément, tu connais pas toutes les caissières par cœur, mais nous, on est une petite équipe, je pense que les clients qui nous connaissent nos têtes, hein, donc ils sont contents de voir une tête connue, quoi.
Puis ça doit être agréable de pouvoir encore être conseillé aussi, donc, et le vin, ça permet beaucoup ça, ce rapport de conseils, de recommandations.
Bah là, c'est pour la vente à emporter sur place, effectivement, c'est le système de conseil ne change pas trop, on est toujours là physiquement. Après, pour les ventes en livraison, c'est intéressant, c'est marrant parce qu'on fait ça par téléphone, quoi. Donc je demande plutôt ce que les gens veulent boire, quel type de vin, voilà, des conseils par téléphone ou par email, c'est pas forcément la même chose que de vive voix et puis physiquement présent.
Et quel conseil tu peux donner si on a envie de consommer de façon intelligente pendant cette période et de soutenir nos cavistes et en même temps soutenir aussi les vignerons et les vigneronnes en France? Qu'est-ce qu'on peut faire exactement?
Alors déjà, pour soutenir les cavistes, soit les gens dans les enseignes indépendantes à côté de chez vous, ça, a priori, les cavistes ont le droit d'ouvrir. En général, ils trouvent des petits systèmes d'ouverture, d'horaires aménagés, soit de livraison, de commande, de précommande. Voilà, en tout cas, il faut privilégier l'achat chez un caviste indépendant, pas dans une chaîne. Surtout pas dans un supermarché. Ouais. Mais voilà, non, mais ça, je rigole. Après, on fait ce qu'on peut aussi, hein, dans ces moments-là. Après, je sais qu'on est nombreux à livrer aussi, à pouvoir livrer. En tout cas, je parle pour les amis parisiens, hein. On est nombreux à pouvoir livrer. Donc, il y a des moyens, des solutions qui sont possibles pour avoir des bonnes bouteilles, quoi, et pas aller forcément trouver des bouteilles dans les grandes surfaces.
Aujourd'hui, c'est une situation économique difficile pour les cavistes.
Une situation difficile forcément, parce que il y a moins de clients, les gens n'ont pas le même pour ceux qui sont par exemple en chômage partiel, etc. Ils n'ont pas forcément le budget. Enfin voilà, les gens ne sont pas forcément envie de sortir chez eux, ou alors ils font qu'un seul magasin, donc ouais, forcément on a fait moins de ventes. Donc c'est compliqué pour nos amis vignerons aussi, qui eux ont déjà perdu une grosse partie de chiffre d'affaires des exports, parce qu'en fait tous les exports à l'étranger ont été gelés. Donc ça, ils se retrouvent avec beaucoup de vins et beaucoup de trésorerie dehors. Ça, c'est un peu le truc compliqué. Puis nous, on a envie de les aider parce qu'on travaille dans un esprit de solidarité, de main dans la main avec les vignons.
Et quel genre de bouteille tu nous conseilles d'acheter si on veut se faire une petite cave le temps du confinement? Bon, sachant que nos déplacements sont limités et que du coup, on ne peut pas trop acheter une petite bouteille comme ça de temps en temps. Si on a la chance de pouvoir se rendre chez son caviste préféré pour soutenir son travail, c'est bien de repartir dans son sac à dos avec quoi comme type de bouteille pour un peu tenir là un petit moment.
Moi, je partirais forcément avec des chenins de Loire, parce que ça fait toujours plaisir. C'est régulièrement des vins avec... pas mal de minéralité, beaucoup de tension, c'est des vins frais, c'est-à-dire que dans des périodes où il commence un peu à faire chaud aussi, un petit côté printanier comme ça, on va retrouver ces petites saveurs un peu florales, un peu fruitées, fruits blancs, tu vois, de pommes, de coins. Moi, je trouve ça très sympa pour le printemps. On peut repartir avec un petit rosé, un rosé vraiment sympa, le rosé gris, le vin gris de chez Colin, qui est un Pinot d'Onis en rosé, et ça, c'est top. Ça, justement, quand il va refaire un petit peu chaud, on se met tous à la fenêtre, on sort la bouteille de rosé, et puis on a un peu l'impression d'être dehors. Donc ça peut être sympa. Des rouges prêts à boire, tu vois, des rouges qui sont des rouges sur le fruit, assez juteux. Ceux qui aiment des vins un peu plus corsés, on peut trouver des choses aussi plutôt sur les épices ou des choses comme ça qui peuvent être très sympas.
Ouais. Bah, c'est pas mal de diviser ça aussi, de raisonner en termes de moments du coup. Ouais, donc le rosé à la fenêtre, les petits rouges comme ça qui s'ouvrent et se boivent facilement, c'est cool pour les apéros virtuels avec les potes. C'est toujours des bouteilles simples à boire.
Il faut aller dans le plaisir en tout cas. Tu vois que c'est pas forcément qu'une question de budget, hein, c'est une question de savoir à peu près ce que tu as envie de boire, de décrire avec des mots simples, toujours de ce que tu as envie de boire. Qu'est-ce que tu as envie que ça te procure comme effet? Et puis après, vraiment, si le caviste fait bien son job, il devrait tomber juste.
Mais là, quand je regarde mes semaines de confinement jusqu'à présent avec mon copain, ça a toujours été un peu ça. C'est le week-end, on prend le temps de se faire un vrai gros dîner avec des plats qui peuvent mettre plusieurs heures à être préparés. Dans ces cas-là, c'est hyper chouette d'avoir la bouteille qui vraiment te fait plaisir et a un truc à raconter. Et donc, tu la bois en même temps que tu fais à manger. Et du coup, il faudrait ensuite une bonne bouteille pour accompagner le fameux plat. Mais par contre, après, dans la semaine, il y a des petites bouteilles qui sont plus des quilles faciles à boire. Et là, je trouve que c'est pratique, quoi. Genre le jeudi, t'as envie de prendre un petit apéro et en même temps juste manger du saucisson et des cornichons. Et...
Ouais, un petit truc léger, même un petit Rhône léger, tu vois. Des petits grenages comme ça qui sont très sympas à boire avec sans trop d'élevage. Voilà. Donc, du coup, tu vas avoir la fraîcheur, le fruit, pas de tanin, des choses, des petites bouteilles sympas ou un joli gamay, quoi. Voilà, ça c'est. Ouais. De toute façon, c'est toujours des vins de partage, des vins de trucs un peu sympas comme ça qui font toujours plaisir et qui sont toujours réconfortants. Ouais.
J'allais aussi te demander quel genre de bouteille en fait il faudrait choisir pour le dernier jour du confinement.
Ah ouais, il faut faire péter un bon champagne. Enfin, tu vois, parce qu'un bon champagne, c'est quand même un bon vin à la base. Moi, je ne parle pas d'aller acheter un truc avec un bandeau rouge sur la bouteille. On a un champagne de vigneron, un joli champagne bien fait. Bon, faut des bulles, dès que c'est festif, faut des bulles. Non, mais je dis champagne pour déconner, mais tu peux prendre un joli pétillant naturel, tu vois. Faut des bulles, dès que c'est festif, faut des bulles.
Comme l'a dit Clément, les vignerons et vigneronnes ont pas mal besoin de nous en cette période de Covid-19 qui a vu la fermeture des restos et des frontières.
Pour ne rien arranger, ces artisans des terres viticoles de France ont même connu un épisode de gel qui les a bien effrayés. J'ai appelé Joe du domaine Moss pour qu'il me raconte ce qu'il se passe depuis le début de la crise sanitaire.
La plus grosse des différences, on la sent au niveau des ventes, nous, parce qu'on travaille énormément à la vente aux professionnels, donc les restaurants, les cavistes, et beaucoup à l'export aussi, mais avec tous les blocages qui sont mis en France et à l'étranger, c'est vrai qu'on fait quasiment plus de ventes depuis le début du confinement. Donc ça, c'est une des grosses différences. Donc là, on se dirige un petit peu plus sur la vente aux particuliers par Internet. On fait des expéditions, on essaie de trouver d'autres canaux de vente qu'on ne sollicite pas d'habitude. Donc ça, c'est plutôt sur l'aspect commercial. Et puis après, avec nos employés, avec nos saisonniers qu'on emploie, c'est vrai que ça modifie aussi notre façon de travailler. On doit faire face à cette maladie et faire attention à pas se refiler le virus. Donc, on ne mange plus ensemble, on ne va plus dans les vignes ensemble, on prend chacun son véhicule, voilà, on évite les contacts maximum. Mais voilà, on continue quand même de travailler parce qu'il y a des impératifs à la vigne et à la cave. Donc,
Et dans tout ça, comment se porte le moral des troupes, du coup ?
Eh bien, c'est assez anxiogène, c'est assez stressant, c'est sûr. Bon, ça fait plaisir de pouvoir continuer à travailler quand même parce qu'il y en a qui sont malheureusement bloqués chez eux et qui ne peuvent plus aller au travail. Donc moi, j'imagine même pas vivre comme ça, mais... Voilà, on a vraiment la chance de pouvoir toujours continuer à travailler dehors, etc. Donc, on est un petit peu des privilégiés dans cette situation, je trouve. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu stressant de voir tout ce qui se passe autour, évidemment.
Est-ce qu'aujourd'hui, ça marche bien de proposer l'option d'expédier du vin directement aux particuliers ?
Bah oui, ça marche bien. C'est vrai que les gens, ils peuvent plus forcément se déplacer chez leur caviste local non plus. Donc, ils cherchent aussi des solutions pour pouvoir continuer à consommer des bons produits et notamment du vin. Donc ouais, ça marche bien. Il y a une belle réponse. Donc voilà, on est assez contents.
Quand je vois un peu comment la clientèle s'organise à nouveau pour avoir accès à ces produits qu'on aime, pour soutenir les petits producteurs et puis aussi le travail des vignerons, je me dis que peut-être que ce que le Covid-19 va changer après la fin du confinement, ce sera qu'on réalisera un peu plus comme c'est simple d'accéder à ces circuits courts.
Ouais, c'est sûr que je suis d'accord avec toi, ça risque de changer un petit peu les mentalités et on va se rendre compte des possibilités qu'on a et de la chance qu'on a de pouvoir consommer des bons produits. Et c'est dans ces moments-là où c'est plus compliqué et où justement le fait de pouvoir trouver du réconfort dans les bonnes choses apporte beaucoup.
Donc aujourd'hui, est-ce que pour l'avenir, vous avez des inquiétudes ou alors le fait de pouvoir expédier ces bouteilles de vin directement en particulier, est-ce que ça permet quand même un petit peu de rattraper le manque à gagner économique ?
Bien, on a des inquiétudes qui sont effectivement économiques, même si encore une fois, le fait de vendre aux particuliers à travers ces expéditions, ça aide un petit peu. Et puis après, il y a aussi des problèmes qui sont logistiques, puisque notre espace de stockage est assez petit. Donc là, on a fait des mises en bouteille dont on pensait pouvoir vendre le vin dans les mois qui viennent pour libérer de la place pour les prochaines mises en bouteille, etc. Donc là, ça va être plus compliqué. Il va falloir trouver des options de stockage, peut-être à l'extérieur, voilà, on va réfléchir à différentes choses, mais c'est pas seulement économique, c'est aussi logistique.
Ouais.
Et puis, voilà, le plus tôt ce sera fini, le mieux ce sera pour tout le monde, c'est sûr.
Et alors, donc, en plus de ce grand contexte qui est celui du Covid-19, vous avez eu dernièrement aussi à affronter une autre épreuve qui est celle du gel, qui a aussi touché certains endroits en Anjou, il me semble.
Ouais, c'est vrai. Il y a eu un petit épisode de retour du froid, c'était fin mars. Donc ouais, on a déjà gelé en 2016, en 2017 et en 2019, donc c'est un peu compliqué ces dernières années. On avait mis en place des solutions, des bougies anti-gel en fait, qu'on dispose dans la vigne et qu'on allume la nuit pour éviter que les températures descendent en dessous de 0 ou en dessous de -1. Et j'avoue que ça a plutôt bien marché puisqu'on a enregistré vraiment très 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 peu de dégâts. Donc au moins, ça, c'est un côté positif.
C'est fou parce que quand on voit les photos de ces bougies anti-gel allumées comme ça sur les parcelles, il y a une beauté, un truc un peu dramatique, quoi. C'est beau et en même temps, on se dit, mais waouh, ça reste en fait une épreuve à traverser.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que ça fait des belles photos. Ça fait quand tu vois les paysages de loin avec ces bougies allumées, c'est assez joli à voir, même si ça, c'est assez négatif à la base.
Ouais.
C'est assez ironique.
Mais dis-moi aujourd'hui, comment on fait en tant que personne qui apprécie le vin, comment on peut faire pour vraiment donc vous soutenir? Commander du vin du coup sur vos plateformes?
Oui, bien sûr. Bah, il faut déjà voir si son caviste local est toujours ouvert de temps en temps. Je sais qu'il y a des cavistes qui font aussi des tournées de livraison dans leur ville, qui n'ouvrent pas forcément leur boutique, mais qui vont livrer des clients chez eux. Donc déjà, commencer par ça. Et puis, s'il n'y a pas de solution locale comme ça, eh bien, effectivement, il y a la possibilité de s'adresser directement aux producteurs et aux vignerons qui peuvent, eux aussi, expédier du vin directement à votre porte.
D'ailleurs, en parlant de vos vins, il y a une qui m'a fait marrer, donc, qui s'appelle Bisous 2019. Et vous dites, voilà, puisqu'on ne peut pas en donner ni en recevoir en ce moment des bisous, bah, on peut au moins en boire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce vin-là, alors?
Ouais, en fait, c'est une nouvelle cuvée qui est un vin qui était destiné au printemps là, et à l'été, qui est un vin rouge assez léger, fait à base de gamay, de grolot et de pinot de Nice. Donc, c'est des cépages assez fruités, assez faciles à boire, comme ça. Et puis, on a trouvé que le nom Bisous collait plutôt bien à ce côté agréable, voilà. Et puis, il se trouve qu'en ce moment, bah, les bisous, on ne peut pas trop en donner. Donc, voilà, ça donne une bonne excuse pour avoir une bouteille de bisous en ce moment.
Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de ta consommation de vin en temps de confinement? Est-ce que tu trouves que ça a un peu changé ta façon de prendre l'apéro?
Bah, clairement, le fait de ne pas pouvoir voir les copains, de ne pas pouvoir aller au bar, je dirais que c'est ma consommation personnelle, elle est vraiment en baisse.
Alors voilà, pendant le confinement, certaines personnes boivent un peu plus, d'autres un peu moins. Douli, une humoriste qui a parlé de ses addictions passées dans un spectacle intitulé « L'addiction, c'est pour moi », nous a livré un conseil pour celles et ceux qui veulent boire un verre de vin mais ne veulent pas boire toute la bouteille. Utilisez le reste en cuisine. On espère que cet épisode vous a offert des conseils utiles à propos de l'apéro en temps de confinement. Si vous avez envie de faire la fête à distance avec d'autres, n'hésitez pas à vous rendre sur Club 41, une plateforme pour ramener la teuf berlinoise chez vous, ou encore l'appart chez moi, qui permet d'aller danser avec des inconnus. Enfin, si vous vous interrogez sur votre consommation ou que vous pensez avoir besoin d'aide, je vous laisse avec ce dernier message de Célia Créma.
Il existe plusieurs moyens d'auto-évaluer sa consommation d'alcool. Il existe par exemple des questionnaires qui vont permettre d'interroger sa relation à l'alcool. Vous en trouvez de nombreux sur Internet et notamment sur le site d'Alcool Info Service. Mais vous pouvez également commencer par noter votre consommation d'alcool sur un journal de bord pour l'estimer. Sur une durée d'une semaine ou d'un mois, ça vous donnera déjà un aperçu de votre consommation d'alcool. Enfin, un arrêt de consommation sur 3 jours, le week-end par exemple, si vous avez l'habitude de consommer de l'alcool plutôt le week-end, c'est aussi une façon efficace de tester sa relation à l'alcool. Dans tous les cas, si vous êtes en difficulté avec votre consommation, il est recommandé de contacter un professionnel qui, lui, saura vous aider et vous accompagner au mieux dans votre démarche pour répondre à vos besoins et à votre demande. Ça me permet également de vous dire qu'en cette période de confinement, la plupart des centres d'addictologie sont ouverts et que beaucoup proposent des systèmes de téléconsultation également qui sont adaptés aux restrictions que l'on connaît.
Merci à Célia Créma pour son expertise et merci à Manu, Steven, Arthur, Alex, Perrine, Georges, Louis, Delphine, Flavien, Hélène, Lucie, Jeff, Clément, Joe et à tous les autres petits potes qu'on n'entend pas dans l'épisode mais qui m'ont permis de bien réfléchir à l'alcool en temps de confinement. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari, montée par Marine Rowe, mixée par Charles de Cilia, programmée par Cassandra de Carvalho et coordonnée par Laura Cuissard avec l'aide de Clara Maté. À mercredi prochain et avant ça, à lundi pour un épisode de notre série Bouffon la débrouille.